Bonsoir. Des milliers de fidèles catholiques ont marché mercredi dernier à travers les pays pour dénoncer les complots de balkanisation de la République démocratique du Congo. Clôture hier à Kinshasa des travaux du caucus africain de l'édition 2012. Ce forum avait comme objectif notamment voir comment prévenir et faire face aux incertitudes qui planent sur les économies africaines. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Pour qu'un journaliste participe à ce débat, il s'agit de John Ngumbwa, il est directeur des infos à la télévision Antenne A, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir John Ngumbwa.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir au public.
Giscard Koussema, il est directeur général des canaux Future Télévision, émettant depuis Kinshasa, qui émettait depuis Kinshasa. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy Maté.
Et Jean-Jacques Louboya, il est éditeur du journal La Vérité, paraissant à Lubumbashi, au Katanga. Bonsoir Jean-Jacques Louboya.
Bonsoir à vous-même et bonsoir à tous vos auditeurs.
Marche initiée par l'Église catholique pour dire non à la balkanisation de la RDC. Les ministres des Finances des pays africains ont réfléchi sur les conséquences de la crise européenne sur le continent africain. On écoute cette revue de presse que nous propose Kéline Couté pour savoir comment la presse a analysé ces différents événements.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la marche des chrétiens organisée le 1er août dernier. À la une du journal Le Potentiel, on peut lire face à une classe politique irresponsable et complice, le peuple s'assume à travers les catholiques. Plus rien ne se décidera désormais sans le peuple congolais, rapporte le journal. Ce 1er août 2012, les catholiques ont répondu par milliers à l'appel des évêques. Et si pour le quotidien à l'avenir, les catholiques ont marché le 1er août pour désapprouver la balkanisation, le Phare pour sa part précise que les catholiques ont marché contre le M23, tout en annonçant aussi que Goma est sous la menace de ses mouvements rebelles. Pour le palmarès, méfiance et suspicion ont plombé le 1er août dernier l'action des évêques par crainte d'infiltration. Mais le tabloïd révèle que ce premier geste de cohésion doit ouvrir la voie à une action plus concertée et plus efficace. De son côté, la prospérité confirme la réussite totale de la marche de l'espérance avec à la une, non à la balkanisation. L'Église catholique envoie un signal fort et forum des as de compléter. Au Rwanda, l'observateur abonde aussi dans le même sens en signant « grosse mobilisation des catholiques contre la balkanisation du pays ». Mais le journal se pose la question « Kagame et ses complices ont-ils compris ?» Parlant économie à présent, l'observateur enseigne que pour Matata Mponyo, la croissance doit servir à l'amélioration du vécu quotidien. Déclaration faite à l'ouverture à Kinshasa de la réunion du caucus africain. Pour Forum des As, le caucus 2012 scrute la croissance inclusive en Afrique. Le journal continue en reprenant un extrait du discours du Premier ministre. Pour le Premier ministre Augustin Matata Mponyo, la croissance n'est pas une fin en soi, mais elle doit servir de courroie de transmission pour améliorer le vécu quotidien des populations africaines. Concernant le même sujet, la prospérité titre sur la fin du caucus africain. Rideau sur la 12e édition du caucus africain et annonce que le gouverneur font bloc face à la crise.
Merci Kéline Couté. Un petit commentaire, John Ngumbwa, directeur des infos à la télévision Antenne A, une télévision qui émet depuis Kinshasa. L'actualité, c'est aussi ces procès de Pierre-Jacques Chaloupa. Selon les collectifs des avocats de cet ancien député, le dossier est vide. Selon ces avocats, le parquet n'a pas pu prouver que Chaloupa détiendrait une fausse attestation de la nationalité congolaise.
Oui, je crois que là, il y a quand même un sérieux procès d'intention qui a des allures racistes à l'égard de ces Congolais de race blanche. On lui reconnaît pas la nationalité congolaise, tout simplement parce qu'il est blanc, alors qu'il a un papier, un passeport conforme établi par l'autorité en la matière. Mon Dieu. Mais si c'est lui qui...
Il faut rappeler même qu'il a été député. Mais, député national.
Tout à fait. Un élu, mon Dieu. On n'avait pas vu tout ça. Il a été élu. Donc, il représente quand même une opinion au Congo, à Kinshasa. Et c'est cet homme-là, on se rend compte finalement qu'il n'est plus congolais. Comment en est-il arrivé là? Donc il y a quand même un problème au niveau de la justice chez nous ici qui est à géométrie variable et à la tête du client et qui se laisse parfois embarquer dans des considérations politiques de manière flagrante et choquante.
Giscard Koussema, directeur général des canaux de Future Télévision, émettant depuis la ville de Kinshasa. L'autre actualité, c'est la participation des athlètes congolais aux Jeux Olympiques olympiques de Londres. Déjà, les boxeurs ainsi que les judokas ont été éliminés.
Oui, cela ne devrait étonner personne. C'est
pourquoi?
À l'image même du pays qui est en déliquescence totale, et l'espoir aussi. Et donc cela est le reflet d'une société qui n'existe presque pas. Et les athlètes congolais ont joué au figurant comme tous les autres aspects, donc ils ne pouvaient pas en être autrement. Le contraire relèverait d'un miracle. Et par rapport au procès Chalupa, c'est un autre procès de la honte qui vient s'ajouter à toute une série de parodies de justice qu'on a eu à voir ici, parce que, me semble-t-il, ici, la procédure de flagrance n'est activée que lorsqu'il s'agit des opposants. Et j'ai en mémoire toute une série de procès également, comme ça, contre pour des faits anodins. Il y a eu par la législature passée des opposants qui ont été expédiés à Makala sans tenir compte de leurs immunités.
Donc vous voulez dire que s'il était de la majorité, il ne serait pas poursuivi?
Bien sûr. Il ne serait pas poursuivi en tout cas.
Okay. Est-ce que vous êtes au courant du moratoire qui n'a jamais été... Oui, à propos de la question des nationalités, il y a un moratoire qui n'a jamais été levé.
C'est à l'Assemblée nationale.
Oui, à l'Assemblée nationale, la législature passée, les dossiers qui n'ont jamais été évoqués pour des députés qui avaient double nationalité. On n'a jamais évoqué ces questions-là jusqu'à ce que la législature soit terminée.
Merci Jean-Jacques Luboya, éditeur du journal La Vérité, qui paraît à Lubumbashi au Katanga. Et qu'est-ce qui domine l'actualité dans cette ville aujourd'hui?
L'actualité dans la capitale de la province du Katanga bat au rythme de la campagne menée par Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, le leader de l'INAPEC, pour une victoire du ticket fédéraliste au Congo. Après Kolwezi, Lubumbashi, Likasi, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza était à Kibouchi pour transmettre à sa base le même message. Pour Kyungu Akumwanza, je le cite, après plus de 5 décennies d'indépendance, la République démocratique du Congo est fille d'un visage de parents pauvres. Pour la petite histoire, lors du référendum de 2006, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, fédéraliste dans tous ses fibres, avait appelé à voter pour un régime unitariste. Aujourd'hui, il a rectifié les tirs et souligne la nécessité de voir un Congo uni s'épanouir dans un système fédéral, et il dit non à la balkanisation et au séparatisme.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir. Des milliers de fidèles catholiques ont marché mercredi dernier à travers les pays pour dénoncer les complots de balkanisation de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a été organisé par la CENCO pour dire non à la balkanisation de la RDC. Cette manifestation était en fait le couronnement des 3 jours de prières intenses pour la paix à l'est du pays. Askien Zigatayoro pour les détails.
Des milliers de fidèles catholiques de Kinshasa ont répondu en tout cas massivement à l'appel des évêques de la RDC. Ils ont entamé sans tarder après la messe matinale la marche à partir de leurs paroisses respectives. Ils sont passés par des grandes artères de communes pour se regrouper avec les autres dans des paroisses mères appelées doyennées. Tous ont exprimé haut et fort leurs indignations contre la rébellion M23 soutenue par le Rwanda.
Alors ils sont tentés de faire leur théâtre à l'Est pour tuer les Congolais. Ça, nous les Congolais, nous disons non.
Trop de morts au Congo, cesser de piller nos richesses, pas question de balkaniser la RDC, c'est là les ras-le-bol de manifestants catholiques. À la paroisse Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Kalamu, tout comme dans d'autres points de chute, les manifestants ont été conviés à une prière de chapelet pour intercéder en faveur de la paix totale à l'est de la RDC. Cette prière s'est clôturée sous la bénédiction de l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Timothée Bodika. Il faut noter que l'archidiocèse de Kinshasa avait prévu 14 points de chute de cette marche. Une marche qui s'est terminée sous la haute surveillance des dispositifs sécuritaires de la police.
Les chrétiens ont également marché dans d'autres villes et cités du pays. C'est notamment à Bukavu, à Goma, à Butembo, à Mbujimayi et à Gemena. Les points avec Suzanne Nzobo.
À Kikwit et Bandundu-Ville, les chrétiens de toutes les confessions religieuses ont pris d'assaut les grandes artères de ces deux villes du Bandundu. C'était selon eux pour demander aux Nations Unies de rappeler le pays agresseur à l'ordre. À Gemena, en Équateur, ils tenaient des banderoles portant comme message « Les Congolais sont unis, c'est leur patrimoine commun, non aux diviseurs ». Au Maniema, l'évêque catholique du diocèse de Kindu, Willy Ngumbi Ngengele, a initié une pétition pour s'insurger contre, je cite, « la guerre imposée à la RDC par les pays voisins ». Fin de citation. À Butembo, la marche s'est clôturée par une demande du maire de la ville à la population de ne pas céder aux appels de l'ennemi et de demeurer vigilante. À Lubumbashi, les chrétiens se sont exprimés à travers un message de soutien à la population du Nord Kivu meurtrie par la guerre. À Kalemie, des grandes personnalités civiles et militaires se sont jointes à la marche des chrétiens. Du côté de Mujimai, des files de fidèles catholiques qu'accompagnaient d'autres croyants ont manifesté sous le signe de l'espoir. À Kananga, le coordonnateur du centre pastoral Radio Cézanne a par ailleurs demandé aux chrétiens de continuer à prier pour que la paix revienne à l'est du pays.
John Gumbwa, la population a marché sous impulsion de l'Église catholique. Et comment vous analysez d'abord cette marche?
Je me félicite d'abord de cette marche qui démontre d'abord l'indépendance d'esprit de l'Église catholique face au pouvoir politique. Et c'est ça, à l'opposé d'un certain affairisme ou complaisance qu'on remarque dans les chefs, de certains chefs des confessions religieuses, quand il s'agit de traiter des questions nationales ou quand il s'agit de parler avec les pouvoirs publics, et aussi face à une certaine duplicité du pouvoir public par rapport à la situation qui prévaut dans l'est du pays depuis maintenant plusieurs années. Je pense que les publics, enfin les personnes interviewées ont été déjà suffisamment éloquentes. Aujourd'hui, je crois que il est important qu'il y ait cette mobilisation citoyenne, hein, qui ne dépend d'aucune couleur politique, face d'abord à cette agression, il faut le dire, c'est l'agression du pays, et face à cette léthargie du pouvoir politique pour pouvoir donner la bonne réponse. Il est important aujourd'hui pour les deux, que ce soit pour les pouvoirs politiques, que ce soit pour l'agresseur étranger qui a des pions en interne, qu'ils comprennent que ils vont trouver les Congolais éveillés.
Mais vous n'allez tout de même pas mettre sur le même pied d'égalité les pouvoirs politiques et les agresseurs?
Non, je ne les mets pas sur un même point d'égalité. Les pouvoirs politiques, je les condamne du fait que c'était à lui de sécuriser la population. Il a donc une lourde responsabilité quant à tout ce qui arrive ici. C'est les pouvoirs publics qui devraient aujourd'hui. On compte combien de milliers de déplacés dans le pays? Et ça, c'est de la responsabilité du pouvoir politique. Donc c'est à ce niveau-là que j'établis sa responsabilité. Maintenant, il y a une responsabilité, une première responsabilité qui revient à l'agresseur rwandais, autant le dire. Il faut qu'il comprenne que, quel que soit ce qu'il va utiliser comme pion à travers le pays, le peuple congolais n'est pas dupe, il n'est plus dupe. Et par rapport à cela, la marche organisée par l'Église catholique révèle maintenant toute l'importance de la prise de conscience de la population face à son destin. Le destin de la population ne doit plus dépendre de la bonne volonté des politiciens. Et le destin de la population, c'est la population elle toute seule qui doit l'assumer, la prendre en compte, notamment par les genres de manifestations qu'on a suivies.
Juste pour ces bancs, le peuple congolais n'est plus dupe. Pensez-vous qu'au travers de cette marche, le message du peuple congolais a été entendu? Parce que entre-temps, la menace continue à planer sur la ville de Goma, où les rebelles du M23 ne seraient plus qu'à une trentaine de kilomètres. Vous pensez que ce message du peuple congolais a été entendu et bien compris?
En fait, il y a plusieurs messages qui ont été transmis à travers l'organisation de cette marche. Le tout premier, c'est justement, comme l'ont dit mes collègues, c'est cette capacité de cette population qui a souvent été contrainte à la spirale du silence de pouvoir se prendre en charge. En fait, c'est une forme de répétition générale, un ballon d'essai. N'oublions pas que l'Église catholique, il y a quelques mois, était victime d'une certaine phobie de la part du pouvoir. Aujourd'hui, ce bien... La dénonciation, c'est le message clé, la dénonciation de quoi? D'une certaine balkanisation. Mais il faut creuser ces concepts. Et qu'est-ce que la population pense de cette balkanisation. Qu'est-ce qu'on entend par balkanisation? En fait, c'est une espèce de conclusion après une guerre entretenue et dont les personnes qui sont soupçonnées d'être des artisans de cette balkanisation se trouvent au pouvoir. C'est, en fait, c'est là aussi le message.
N'est-ce pas une accusation gratuite?
Non, ce n'est pas une accusation gratuite. Les termes balkanisation ne sont pas des balkanisations, pensez que c'est quoi? C'est la résultante de 15 ans de guerre, une guerre dont les acteurs sont au pouvoir.
Et ce qui entretient cette situation sont pouvoir, selon vous?
Mais c'est ce qui s'est dit.
Vous basez sur quoi?
Je me base sur la clameur publique. Sur la clameur publique, qu'est-ce que la population pense? Je me réfère simplement aux calicots et aux chansons. Moi, j'ai été à cette marche-là, j'ai lu des calicots, j'ai entendu certains messages, même si beaucoup n'ont pas été relayés. Tous parlent, dénoncent une balkanisation. Mais qui sont les acteurs qui sont soupçonnés d'être de connivence avec le Rwandais?
Mais on a identifié le M23.
Mais ce n'est qu'une manche, en fait. Moi, c'est le message que j'ai perçu. Le M23 n'est qu'une branche à travers laquelle ces personnes-là, ces acteurs de la balkanisation, s'activent.
Donc le M23 ou les balkanisateurs auraient plusieurs ramifications?
Bien sûr, c'est pas moi qui vous le fais dire, en tout cas.
Et Jean-Jacques Louboya, il y a une théorie selon laquelle il est difficile, si pas impossible, de procéder à la partition d'un pays sans l'adhésion massive. L'on peut considérer que ceux qui voudraient voir la RDC balkanisée comprennent finalement que les masses populaires ne sont pas avec eux.
La balkanisation de la RDC ne peut pas se faire. La croisade pacifique du 1er août dernier est une démonstration de l'idéal nationaliste qui anime la majorité des Congolais en cet instant décisif. Chaque guerre, mon cher confrère, chaque guerre qui éclate réveille toujours un sursaut interne. Lorsque l'Allemagne hitlérienne avait occupé la France, le réseau des résistances était multiplié aux quatre coins de l'Hexagone, ce qui avait permis d'éviter certaines atrocités et parfois de détruire le dispositif de l'ennemi. Les masses initiées par l'Église catholique sur qui dans l'île du territoire national confirment bel et bien que les temps ont déjà changé. Le M23, né en période post-électorale, n'aura jamais la sympathie de décideurs internationaux. En plus, lorsque les lourds d'Abouloulou, Christophe Tinkei Mulumba, Olivier Kamita Touéotre et Alexis Tachouamba, s'étaient rangés au sein des groupements armés tels le MLC ou le RDC. C'est là que justifié. En ce temps-là, il y avait une dictature qui voulait imposer une gueule de bois aux Congolais. Aujourd'hui, prendre le pouvoir par les armes, pour quelque motif que ce soit, relève de l'irresponsabilité criante. Comme l'a dit un abbé d'une paroisse de Kipushi dans le Haut-Katanga. Devise voix et sans marcher leur mot, les chrétiens catholiques ont condamné les rebelles du M23 et leurs parents. Cette action citoyenne, cette action pacifique doit servir d'exemple à tous ceux qui ont les soucis de la RDC. Et à cette étape du dialogue de ce soir, j'en profite pour condamner les autorités chinoises qui avaient empêché la marche des chrétiens organisée en souvenir des faits de leur tombée sous les balles des forces armées d'Aïroise en pleine conférence nationale souveraine. Et lorsque le cardinal Laurent Motengo Patinia a crûment et crânement dénoncé les dérives autoritaristes de la commission électorale, certaines de nos autorités avaient fermé les yeux sur les lynchages médiatiques dont c'était l'objet. Aujourd'hui, c'est l'Église en laquelle croit fermement le cardinal Montingo qui porte l'étendard pour demander aux Congolais de défendre leur patrie.
Résumez-vous, Jean-Jacques Louboya.
C'est pourquoi il doit retenir mon cher confrère. Et c'est une des choses qui doit servir d'exemple aux autres chapelles, comme l'Église du Christ aux Zaïre, la communauté islamique. Et j'en parle d'autres que je respecte.
Mais il faut préciser que toutes les confessions religieuses ont participé à cette marche, hein, même si elle a été initiée par l'Église catholique.
Elles ont participé, mais chaque fois que l'Église catholique initie une action dans ce pays, il y a toujours des troubadours qu'on réplique dans certaines chapelles.
Merci.
Pour faire la réplique. On l'a vu sous Mobutu, on l'a vu sous les deux candidats. Et il faut que ça change. Nous devons tous marcher en regardant dans la même direction.
Merci. John Ngomba, peut-on dire que cette marche a eu un impact réel? Parce que vous savez que hier il y a une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est tombée, demandant au M23 de ne plus avancer vers Goma et demandant aux pays qui soutiendraient le M23 de ne plus continuer à soutenir ces groupes rebelles. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une des retombées de toutes ces marches qui ont été organisées à travers les pays?
Oui, nous sommes aussi dans un processus, c'est vrai. Dans ce genre de contexte, l'action ne répond pas forcément à une réaction immédiate. Mais ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas pire crainte au niveau de l'opinion internationale que l'autodétermination des opinions en interne. Il n'y a pas pire chose que craignent les manipulateurs au niveau international qu'un peuple qui se soulève et qui décide de se prendre en main. Donc on peut dire que le message a été reçu. Bon, maintenant, quant au Conseil de sécurité, je crois que cela participe déjà d'un certain nombre de déclarations, des faits posés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, qui sont un peu, si vous voulez, les vrais chefs à ce niveau-là. Donc ils ont certainement déjà perçu ces messages qui viennent des types du peuple congolais qui a dit arrêtez, ça suffit maintenant.
Gisra Kusema, le président ougandais Yoweri Museveni Kaguta, dément les informations selon lesquelles son pays soutient le M23. Il a même offert ses bons offices. Il voudrait être parmi les facilitateurs dans cette crise.
Je ne vais pas ici faire le plaidoyer de l'Ouganda, mais je constate simplement qu'il y a une sorte de contre-offensive diplomatique qui est déployée par ces pays, vous le savez. Il y a un mémo de 136 pages qui est sur la table du Conseil de sécurité. Et on sait que ces pays-là ont des lobbies qui sont assez mieux organisés que les autres. Et parfois, je parle bien de l'Ouganda, vous avez cité, et du Rwanda. Ces deux ont engagé une contre-offensive diplomatique et on ne devrait pas ici se contenter de genre de communiquer. Vous savez, Israël, c'est l'État le plus condamné par le Conseil de sécurité, mais cela n'empêche pas d'avancer. Donc nous pensons que ici, la solution ne devrait pas venir des autres. La solution devrait être, d'une part, trouvée à l'interne, ici. Mais lorsque à l'interne, on ne parle pas d'une seule voix, c'est des divisions, c'est une gestion par défi. On ne peut que constater ce que la population appelle aujourd'hui balkanisation. Je reviens à ces concepts et je voudrais m'assumer ici. Vous verrez qu'il y a un glissement sémantique au niveau de l'intelligence collective. Il y a quelque temps, on ne parlait pas de ces concepts. Et c'est depuis quelques mois que ce terme est en vogue. En fait, ce terme signifie quoi? C'est l'incapacité du pouvoir public de pouvoir résoudre par des voies militaires les problèmes qui se posent à lui. Et donc, si la solution n'est pas trouvée par toutes ces voies, on assisterait à un démembrement, et c'est ce qu'on appelle balkanisation. Il y a cette peur-là, cette peur qui s'installe au niveau de la population, qui s'installe au niveau de la ville de Goma, dont on dit que tout peut arriver à tout moment, malgré tout ce qu'on a annoncé.
Pas seulement Goma, Bukavu et Beni, voilà.
Bien sûr, c'est toute la partie est. C'est une paix volatile et tout peut arriver. Ces villes-là ne peuvent pas être défendues par les forces qui sont censées les faire. Alors, à quoi l'ONU aboutir dans les jours qui suivent?
Et c'est pourquoi le président ougandais propose ses bons offices?
Bien sûr. On l'a toujours dit ici, il y a un volet diplomatique et un volet militaire de la question, alors qu'ici, on semble privilégier l'option militaire. Et pourtant, sur les terrains, on assiste à pratiquement à une forme de sauve qui peut.
Mais moi, je voudrais ajouter qu'il faudrait se méfier de Museveni. Il faudrait mieux appréhender les rôles de Museveni depuis l'arrivée de l'AFDL jusqu'à ce jour. Museveni, c'est les faiseurs du roi. C'était l'homme par qui est venu même Kagame. C'est l'homme qui a intronisé Laurent Désiré Kabila. Si vous voulez, Museveni, c'est l'homme des Américains dans la région des Grands Lacs.
Si réellement il est faiseur des rois, c'est qu'il peut avoir une certaine influence sur tous ces régimes-là, et donc il peut bien jouer ces rôles-là des facilitateurs.
Oui, mais maintenant, Museveni s'est retrouvé un peu anachronisme du discours, de la position de ses commanditaires américains, qui ont changé de position avant que lui ne change. Je crois qu'aujourd'hui, Moussa venait plutôt dans la position du pyromane qui veut aujourd'hui jouer aux sapeurs-pompiers. Je ne peux pas penser que les troupes ougandaises aient été absentes de la RDC. C'est sûr qu'elles étaient aussi aux côtés, mais peut-être pour d'autres dispositions. On a vu que le Rwanda et Kigali et Kampala sont d'accord parfois pour attaquer la RDC, mais souvent pour des objectifs différents. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kisangani avec les troupes rwandaises et ougandaises qui occupaient la RDC, mais qui se sont battues et transformant la ville en un champ de ruines. Donc Museveni,
on appelle ça la guerre des six jours.
Voilà, Museveni, ce n'est pas les bienfaiteurs de la RDC, loin de là. Donc il faut écouter ces propositions avec beaucoup de réserve.
Jean-Jacques Louboya, lors de son entretien avec certains journalistes congolais, la semaine dernière, le chef de l'État a laissé entendre qu'il examinait trois pistes pour solutionner cette question de l'Est. Il a parlé de la voie diplomatique, politique et militaire. Comment vous analysez ces trois approches proposées par le chef de l'État?
La seule voie qui peut permettre au Congo de s'en sortir de cette mauvaise passe, c'est la voie militaire. On ne peut pas parler du dialogue. Voyez ce qui se passe entre le Pakistan et l'Inde. Depuis l'indépendance de l'Inde vers la fin des années 40 et jusqu'à
présent,
on se dispute sur le Cachemire. Et depuis l'indépendance du Soudan, il y a toujours des bruits entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, c'est la force de frappe qui doit parler sur le terrain. La médiation nous plongera toujours dans des rencontres qui n'auront pas de solution réelle à la crise que nous sommes en train de connaître.
Oui, mais on sait que depuis la nuit des temps, les opérations militaires ont toujours été accompagnées d'une approche diplomatique, depuis toujours.
Mais si en Inde et au Pakistan, on n'a pas encore trouvé des solutions, si au Soudan, on est tenté de trouver depuis des solutions, comment voulez-vous qu'on trouve une solution définitive à la crise congolaise?
Donc, il faut exploiter davantage l'approche militaire. Merci. Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Clôture hier à Kinshasa des travaux du caucus africain de l'édition 2012. Ces forums avaient comme objectif notamment de voir comment prévenir et faire face aux incertitudes qui planent sur les économies africaines. Dans leur déclaration finale, les participants ont plaidé, entre autres, pour plus de financement en vue de renforcer les pôles énergétiques en Afrique, dont Inga 3 et les grands Inga. Les détails avec Agathe Mpona.
Comme dans la déclaration finale du précédent caucus, cette recommandation à l'endroit des partenaires financiers que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a été reconduite. Il faut dire que le projet du pool énergétique de Lompangar au Cameroun connaît, grâce au plaidoyer du caucus africain de 2011, un début d'exécution. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre en charge du budget, représentant du Premier ministre à la clôture du forum.
Parmi les projets énergétiques intégrateurs qui avaient été retenus, un premier projet est en cours de démarrage. Celui de Lompangar au Cameroun. C'est ici le lieu pour moi de féliciter l'ensemble des gouverneurs pour ce succès, qui représente un résultat tangible des efforts menés par votre organisation au cours de ces dernières années.
Il s'est dit donc impatient de voir se concrétiser les projets Inga 3 et Grand Inga au bénéfice de la RDC et d'une bonne partie de l'Afrique. En outre, les gouverneurs africains accrédités auprès des institutions de Bretton Woods ont convenu de stimuler la croissance agricole en Afrique, de promouvoir l'entrepreneuriat et l'industrie manufacturière et d'accroître le nombre de cadres africains à tous les échelons de ces institutions. Ces recommandations serviront donc de documents de plaidoyer africains auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Giscard Koussema, je rappelle que vous êtes directeur général des canaux Futur Télévision émettant depuis la ville de Kinshasa. Comment analysez-vous cette initiative des États africains qui crée une certaine synergie pour faire face aux retombées, aux conséquences de la crise financière et économique qui frappe le continent européen?
Oui, on ne peut que saluer ce genre d'initiative. Lorsque Je prends en compte les dernières déclarations qui ont été faites par Madame Jacob Zuma, les toutes premières déclarations, c'est de dire que les Africains devraient s'organiser pour avoir une des institutions africaines comme comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Mais avant de criser, je voudrais rappeler ici à certains de nos auditeurs qui ne le savaient peut-être pas que la réunion de Kinshasa venait en fait clôturer la présidence congolaise du caucus. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que la République démocratique du Congo a gagné de la présidence de ces caucus. Rien du tout.
Mais la RDC a plaidé pour le financement du projet Inga 3 et l'exemple Inga.
Mais c'est depuis des décennies qu'on parle de Inga, qu'on parle des aéroports qui devaient être financés par la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international et tout ça. Mais sur les terrains, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est depuis tous les gouvernements qui se sont succédés, depuis 1+4 jusqu'à Matata 1, ont toujours présenté ces problèmes et sur les terrains il n'y a rien, c'est toujours une même turbine qui fonctionne.
John Gomboa, je rappelle que vous êtes directeur des infos à la télévision Antenne A qui émet depuis Kinshasa. C'est vrai que Koussema émet des doutes par rapport à ce qu'aurait gagné la RDC en accueillant ces forums ici à Kinshasa. Mais le fait que la RDC ait plaidé pour le financement des Inga 3 et Grand Inga, est-ce qu'on ne peut pas espérer? Parce que le même plaidoyer a été fait il y a de cela une année pour un tel projet au Cameroun et les travaux sont en cours maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas espérer que si la démarche aboutit, d'ici 2 ou 3 ans, Inga 3 et Grand Inga seront opérationnels?
Voilà, Guy, vous allez me permettre de faire une petite marche arrière.
Je vous en prie.
Par rapport à ce qu'avait dit dans le sujet précédent notre confrère qui est au Katanga sur les options comme solution à la guerre, je dis mon credo actuel, c'est que le Congo est faible dans son armée et si l'armée avait été forte, on n'en serait pas là. Il y a trop de complicité et trop de corruption au sein de l'armée. Voilà, je ferme la parenthèse. Pour revenir... Pour revenir au caucus. Oui, mais les caucus se suivent et se ressemblent, Guimaté. Les caucus se suivent et se ressemblent. Et je peux dire aujourd'hui que ces caucus nous servent un peu la soupe trop entendue du Fonds monétaire international où vous avez des vocabulaires correctement, politiquement corrects comme partenaires, facilités, offres des garanties, ainsi de suite. Et, ces caucus ici, moi, il m'a laissé sur une impression d'insatisfaction, une impression des économies toujours extraverties. Ces gens, ils sont venus parler plus par rapport à ce qu'ils attendent de l'extérieur, au lieu de parler de ce qu'ils peuvent faire. Ils veulent avoir une place au Fonds monétaire international. Mais c'est par l'armée du salut là-bas. Le Fonds monétaire international, ça dépend de votre valeur interne. Qu'est-ce qu'ils représentent en interne? Moi, j'ai dit que ils auraient pu gagner énormément en essayant de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire en interne.
Oui, mais ils se sont convenus de booster, de faire la promotion de l'agriculture.
Oui, mais toujours, c'est sur les financements extérieurs. Il faut que la Banque mondiale donne ceci, il faut que le Fonds monétaire international donne cela. Mais tant qu'à faire, quand on tourne la planche à billets, parce qu'on sait qu'on tourne la planche à billets, pourquoi il ne peut pas financer l'achat des bateaux pour faire la pêche sur le fleuve Congo ou sur les rivières? Ça coûte combien d'argent ça? Est-ce qu'il faut aller à la Banque mondiale pour ça? Quand on tourne la planche à billets, pourquoi il ne peut pas servir à amener, à transformer les patates douces, les pommes de terre qui sont cultivées abondamment au Katanga pour en faire des frites ici? C'est la petite industrie. Ça, c'est, il ne faut pas attendre, comment dire, à la Banque mondiale. Quand on tourne la planche à billets, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre le lait qui est produit au Kivu là-bas, le conditionner tout simplement, en faire du lait liquide ou du lait en poudre? Ça existe ici, il ne faut pas la Banque mondiale pour ça. Mais ils sont en train de développer des mécanismes de dépendance depuis des éternités. On a vu, ça a amené à quoi être en bon terme avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Ça profite à un petit groupe, les initiés qui sont là-dedans, qui savent quels sont les mécanismes de rétrocession dont ils bénéficient. Moi, je ne pense pas que ces caucus a été utile. Et il est tombé encore au moment où le Premier ministre, Matata Ponyo, est très rigoureux aujourd'hui, sur les sorties d'argent, il y a beaucoup de cabinets politiques où les ministres n'ont pas touché d'argent, les conseillers n'ont pas touché d'argent, et ceci, c'est là. Mais il y a eu cette débauche d'argent autour de ces caucus. Je n'ai pas très bien compris quel était le sens logique du Premier ministre par rapport à ça. J'ai comme l'impression qu'il a joué un peu la carte perso pour se faire une petite promo, je crois bien.
Jean-Jacques Louboya, vous êtes éditeur du journal La Vérité, qui paraît à Lubumbashi au Katanga. John Gomba affirme que les caucus se suivent et se ressemblent, mais là, il y a un résultat palpable hein, avec le projet énergétique de Lompangar au Cameroun. N'est-ce pas que ce genre de rencontres sont, à certains points de vue, bénéfiques pour les pays africains?
Ok, mon ami, toute bonne initiative mérite d'être applaudie, saluée et même encouragée. Les caucus qui a réuni les décideurs africains affiliés aux institutions de Bretton Woods s'inscrit dans cette logique. À l'heure où la crise souffle sur les toits de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie, les Africains qui ont une économie très fragile doivent réfléchir intensément sur l'avenir de la communauté. Comment faciliter la croissance? Quel créneau faut-il emprunter pour créer beaucoup d'emplois? La réponse à ces questions passe par le renforcement du circuit de l'énergie. Sans eau ni électricité, on ne peut jamais entrer dans les carrés des pays émergents. Jamais. En Afrique, au sud du Sahara, plusieurs villes vivent au rythme de l'essage. Même dans les bassins où l'eau est en abondance, comme la Guinée, la République démocratique du Congo ou les Congo voisins, l'approvisionnement en énergie électrique est difficile. À Lubumbashi, pour parler de la proximité, à Lubumbashi, la deuxième grande ville du pays, les courants font défaut dans plusieurs quartiers plongés toujours dans les noirs. Le petit métier tourne mal de ce qui prétend, c'est la croissance qui est bloquée. En plein 21e siècle, nos campagnes sont soumises à une vie semblable à celle de l'époque de la pierre taillée. Les produits périssent dans les greniers parce qu'il n'y a pas de route ou des usines de transformation. Et dire que le développement ne peut être boosté que par le paysan, c'est grâce à l'EVA. Là, il faut bien le comprendre. C'est grâce à l'EVA produit dans la province de l'Équateur que le roi de Belge, puis l'ingénieur d'idée de créer l'union minière au Bio-Katanga. Un véritable état dans l'état. C'est grâce à l'agriculture, chers confrères, que les États-Unis et la France sont passés à l'ère industrielle. Tout ceci confirme la nécessité de garantir une sécurité énergétique qui assure le développement de nos pays. Inga est sur notre terre. Inga est exportable. Comment se fait-il que le Congo est toujours mal éclairé? Cela est dû à une gestion nébuleuse de la chose publique.
Merci.
Nous avons en main un atout qui est négligé. Si la Tunisie, l'Afrique du Sud ou le Maroc avaient Inga, je suis de ceux qui pensent que ces pays allaient jouer un rôle phare
merci.
À l'échelle planétaire.
Merci Jean-Jacques Louboya, Giscard Koussema. John Gomba aurait souhaité que les Africains puissent initier des projets qui seront à mesure de financer eux-mêmes. Mais lorsque nous avons des projets pharaoniques comme Inga 3, Grand Inga, qui nécessitent beaucoup d'argent et qu'il est de notoriété publique et qu'on n'a pas assez de moyens, quoi d'anormal lorsque nous tendons la main à ces institutions de Bretton Woods?
Ces institutions de Bretton Woods, en fait, c'est pas parce qu'elles portent le nom de banque que ce sont des banques comme on en connaît ici pour financer des projets. Non. Aucun pays ne s'est développé grâce au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Je vais prendre ici l'exemple de nos voisins angolais qui se sont passés de ces institutions et qui passent aujourd'hui pour l'une des puissances militaires et économiques d'Afrique. L'Afrique devrait mettre fin à cette politique de main tendue. Avec toutes ses potentialités, il serait ridicule de croire que des projets pharaoniques, comme vous les citez, ne peuvent être réalisés qu'avec l'argent de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Vous connaissez les conditions auxquelles on est soumis lorsque on doit attendre du Fonds monétaire international.
Et pouvez-vous nous proposer des moyens par lesquels on peut avoir les fonds nécessaires pour réaliser ce genre de projets?
Mais non, c'est simple. Mais écoutez, l'Afrique, on le dit, c'est un scandale. Je ne parlerai même pas de l'Afrique, je parle du Congo. Rien que l'argent du Congo lui-même peut développer toute l'Afrique, mais cela ne peut passer que par une bonne gouvernance et par des pouvoirs responsables qui peuvent transformer ces potentialités en richesses réelles.
Je m'en vais de prendre la parole dans la bouche des escarres qui m'excusent. Ce matin, j'ai suivi que ça passait d'ailleurs sur Radio Capi. Kinshasa va devoir importer du courant de Brazzaville. Voilà. C'était la SNEL et qui envoyait du courant de Brazzaville. Aujourd'hui, le Congo Brazzaville s'est tellement organisé que Kinshasa va être obligé de prendre un peu de mégawatts à Brazzaville pour pouvoir compléter ici et dans la ville. Mais c'est incroyable. Une question de gestion. Comment est-ce que on peut arriver à des projets pharaoniques? Mais excusez-moi de parler de la Bible. C'est lui qui est grand dans les petites choses et il est aussi dans les grandes choses. Il suffisait de gérer déjà très bien ce que nous avons. C'est Ingala qui alimente en électricité les pays africains ici. Mais qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de Inga? Qu'est-ce qu'on en a fait? Mais on pouvait réinvestir. Mais il y avait la possibilité de faire fonctionner la SNEC comme une entreprise correcte, sans qu'il y ait des ponctions à gauche et à droite, et de permettre que l'entreprise se réfinance. Ça, c'est des 1. Des 2. Guy Maté, vous savez que nous sommes nous-mêmes, pour parler des productions internes, nous sommes nous-mêmes un grand marché. 60 millions d'âmes, pour le moins. Imaginez qu'on produise de l'agriculture pour nourrir 60 millions d'âmes. Ça vous fait combien de gens à nourrir? Ça vous fait combien d'argent? Parce que vous achetez ce que vous produisez vous-même. Mais et donc, il ne faut pas aller chercher des miracles.
À cet effet, je peux rappeler que le Premier ministre venait de lancer une campagne agricole qu'il a financée à hauteur de 33 millions de dollars américains. Et l'objectif, c'est de faire de l'agriculture la priorité des priorités. C'est pour que, qu'il y ait une certaine
autosuffisance alimentaire. Mais cette histoire-là, des objectifs, priorités, des priorités, je crois que c'est un slogan aujourd'hui qu'on a entendu depuis combien de temps? Après l'effet d'annonce, qu'est-ce qui va suivre? Il faudra vérifier. Il y a énormément de projets qui ont été annoncés avec tambour battant, mais qui n'ont jamais été menés à terme.
Merci. Jean-Jacques Louboya, à votre avis, toutes ces mesures qui ont été prises par les pays africains, parce qu'en fait les économies africaines sont extraverties, pensez-vous que les mesures qui ont été prises à l'issue de ces forums de Kinshasa pourraient mettre l'Afrique à l'abri des retombées de la crise qui frappe les continents européens?
Je ne les crois pas. Parce que depuis que nous avons redressé la tête à l'indépendance, mais cette tête regarde notre nombril. On ne fait pas des efforts pour se relancer. Quand on parle d'Inga, je me révolte. Inga peut booster l'économie congolaise. Inga, à partir de Inga, le Congo peut devenir un grand pays au cœur de l'Afrique. Et le Congo peut être respecté. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas gérer la richesse que nous avons à main. Voilà pourquoi nous sommes devenus un nain politique. Un grand pays au cœur de l'Afrique, mais un nain économique. Nous ne pouvons pas redresser la dette. Nous ne pouvons pas, avec nos propres manières, sortir la tête de l'eau.
Merci, c'est la fin de cette émission. Paul Badianyama était à la technique et Alain Irung à la réalisation, assisté de Kelly Nkouté sous la supervision de Julien Nyamouni. Devant ses micros, Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.